but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 31 mars sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jacques Lavergne. Bonjour Jacques.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman policier intitulé Mort à Venise, Mort M-A-U-R-E-S, et publié aux éditions Mare Nostrum. Mais avant la page info... Tout d'abord, signalons qu'aujourd'hui sort le troisième opus en solo de Majid Cherfi, catégorie Rennes, et qu'il présentera d'ailleurs le samedi 15 avril à 17h à la librairie Gibert Musique à Toulouse, rue du Thor. Ensuite, mercredi 5 avril à 20h30 à la médiathèque de Tournefeuille, impasse Bailac, à la salle de l'atelier d'écriture au sous-sol, le café littéraire de Tournefeuille vous donne rendez-vous autour du livre de Tony Hillerman, Le chagrin entre les fils. Et puis la troisième info, mardi 18 avril à 18h, ça fait beaucoup de 18, à la librairie Ombre Blanche, 3 rue Mirepoix à Toulouse, rencontre avec Jean-Yves Lorichès autour de son nouveau roman intitulé Un passant incertain et publié aux éditions Le Temps qu'il fait. Il viendra certainement nous en parler prochainement ici à Page à Page sur Radio Occitanie.
Page à Page, Claire Ambil.
Et merci à Edgar pour la technique de cette émission. Edgar, que je retrouve avec grand plaisir. Et puis, on a une pensée pour Alex, bien sûr. Alors, Jacques, c'est donc avec plaisir eh bien, que je te retrouve ici à Page sur Radio Occitanie pour ce quatrième roman policier. Alors, Radio Occitanie, justement, que tu connais bien déjà pour venir présenter tes livres, mais aussi parce que tu animes deux émissions actuellement et même une troisième prochainement. Tu nous en dis un peu plus ?
Oui, ben un peu plus cap, c'est le lundi matin où je reçois un invité pendant une heure en direct où nous faisons en quelque sorte son portrait en creux.
De 11h à midi.
Voilà, 11h à midi, rediffusion le mardi à 21h et nous avons également Ça va mieux tous les 15 jours, le mercredi de 18h à 19h où nous commentons l'actualité, comme je le dis au micro, l'actualité du monde avec un certain nombre de chroniqueurs et à partir de thèmes choisis et travaillés à l'avance.
Et oui, ça s'organise, hein, la radio, faut pas croire que c'est hop,
voilà,
comme ça.
Voilà, c'est les improvisations les plus longuement préparées sont les meilleures
voilà.
Et les plus réussies.
Tout à fait. Et puis une troisième à la rentrée?
Oui, un peu avant la rentrée, mais je pense qu'on va faire une émission qui sera un peu dans le droit fil de mon livre, finalement, puisqu'on sera totalement italien.
Ah ben voilà.
Et on traitera pendant une heure en direct, le mercredi 18h à 19h, dans une émission qui s'appellera Ciao Italia. On parlera de l'Italie, de sa cuisine, des régions, des Italiens de Toulouse. On parlera d'histoire de l'art, on parlera de régions, enfin on parlera de tout.
Tout un programme.
Voilà, on va essayer de brosser un portrait de l'Italie actuelle au fur et à mesure des émissions.
Avec la Dolce Vita.
Voilà, parce que ce sera la Dolce Vita avec les Italiens autour de la table, mais on essayera.
Oui. Et alors, donc, ce quatrième roman, comme je le disais, c'est donc la quatrième aventure de Pierre Pagès que l'on retrouve avec plaisir. Rappelons que c'est le conservateur du musée d'art moderne de Céret. Et donc, c'est un personnage central et récurrent depuis le premier roman qui s'intitulait Peinture, qui s'intitule d'ailleurs toujours Peinture au pistolet à Céret. Et donc, c'est un passionné d'art, lui aussi, et de bon vivre, ce Pierre.
Oui, de bon vivre, oui, comme tout amateur d'art. Alors, il n'est pas, Il n'est pas véritablement austère hein, pour une historienne
ah non,
de l'art,
non,
mais
enfin,
c'est quelqu'un à qui il arrive...
C'est un bon vivant.
Oui, c'est voilà. un bon vivant qui aime la vie dans toutes
ah,
ses
oui.
composantes.
Ben
qui
oui.
essaye,
la gastronomie,
oui,
les
tout.
Bons vins,
oui.
les belles femmes.
Parfois aussi, effectivement.
Ben oui. Et alors, donc, justement, dans ce roman, on part avec lui à Venise, la Sérénissime, la ville d'art par excellence et donc de la Dolce Vita.
Oui, c'est pas toujours la Dolce Vita, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, Venise
ah ben,
en
surtout
été,
dans
c'est
ce
bien.
Livre, hein, en plus. C'est...
Oui, ça bouge un peu, certes,
bouge, hein.
mais bon, Venise n'est pas que la Dolce Vita. Hein,
non, on va le voir. D'ailleurs, tu en parles. Hein, tu
oui,
en...
un peu, un petit peu, oui.
Tu dénonces deux, trois petites choses. Hein,
oui,
sont,
au passage.
Oui. Alors, en prélude de ce début de roman, on trouve une jolie phrase de Tiziano Scarpa, extraite de « Venise est un poisson ». Et qui reflète bien Venise de façon poétique, je trouve. D'ailleurs, je vais la lire parce que je l'ai bien aimée. Nous avons eu peur qu'un jour Venise puisse changer d'avis et repartir. Nous l'avons attaché à la lagune pour qu'il ne lui passe pas par la tête de lever l'ancre encore une fois et de partir au loin et cette fois pour toujours. Je trouve que c'est très, très poétique.
Oui, c'est très poétique et c'est assez actuel parce que finalement, peut-être qu'un jour, Venise va disparaître. Alors,
ben
est-ce qu'elle
voilà,
partira ou sous les eaux ou sous les touristes
ou sous les pigeons
ou sous les pigeons, oui. Ben en principe, les pigeons sont sur les touristes et les touristes sur la terre de Venise, le peu
oui.
qu'il y a.
Ça, tu en parles aussi dans ce roman. Alors, un petit rappel. Dans le précédent roman qui s'intitule « Noël au balcon », Pâques au violon, qui s'était déroulé pour une partie du moins en Géorgie, à la recherche du prêtre Nafaou, un ami de Pierre Pagès. Alors Pierre était accompagné de la belle Vivica, une mezzo-soprano, qu'il avait rencontrée d'ailleurs à Barcelone, dans le second roman, qui s'appelle « À Barcelone, aller simple ». Et donc il vivait depuis une belle histoire avec cette belle femme, et faisait même des projets. Et là, dans le début de ce roman, dans celui-ci, Mort à Venise, eh bien, patatras, Pierre reçoit un SMS de Vivica, justement. Alors, en plus, c'est, voilà, SMS, c'est, on est en pile dans le, comment dire, dans l'actualité, enfin, c'est la mode, hein, de les
oui,
SMS.
Oui, c'est une,
hein,
une
voilà,
mode un peu brutale, mais c'est
oui,
une,
voilà, un
c'est une
SMS
mode, oui.
de Vivica, donc mettant fin à leur histoire et sans plus d'explications. Donc voilà, on retrouve
Pierre,
un Pierre Pagès
oui, voilà.
un peu chagrin.
Un peu oui, un peu chagrin, même très chagrin, très
oui.
meurtri, mais bon.
Et puis surtout, il ne comprend pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'explication. Alors, on est au mois d'août. Et son neveu Mauricio, un adolescent de 15 ans, vient en vacances chez lui. Alors évidemment, ordinateur et portable sont au programme, hein, puisque l'adolescence, c'est...
Oui, même plus qu'à l'adolescence, mais bon, au moins à l'adolescence.
C'est
oui.
voilà. Mais un ami vénitien de Pierre, Giorgio, qui est professeur de droit, va lui demander de venir expertiser un de ses tableaux qui a failli être dérobé à son domicile. Alors ça, déjà, ça commence... c'est assez amusant. Enfin, je veux dire, c'est une curieuse démarche de venir... expertiser un tableau qui a failli être dérobé.
Oui, mais peut-être que justement, c'est un tableau qui au départ n'a attiré l'attention de personne. Et le fait que certains s'y intéressent et de façon aussi particulière, aussi violente, met la puce à l'oreille
pose
à son propriétaire.
Question, voilà, et
donc pourquoi
dit,
va-t-on
ben
essayer
oui.
de voler ce tableau dans un palazzo italien qui, comme tous les palazzos, comporte énormément de tableaux puisque
mais
sont,
oui,
tous
oui,
les palazzos sont à peu près
il...
des musées. Hein.
Que celui-là ne paye pas de mine au premier
Absolument.
Abord, tout du moins.
Donc la question reste entière et il va oui. revenir à Pierre de l'éclaircir.
Ah oui, avec son petit matériel de rénovateur, de révélateur de lumière et de peinture. Hein. Alors ainsi commence une nouvelle aventure, une nouvelle enquête pour Pierre, qui cette fois donc est accompagné de son neveu, Mauricio, et ils partent tous les deux en voiture, direction Venise. Alors en route, ils font une halte au lac de Garde, chez un ami de Pierre, Guido, un colonel des douanes. Alors, il y a de très belles descriptions, j'ai trouvé, de ce lac somptueux, hein, le lac de Garde, et puis des paysages environnants. Je trouve que ça donne envie d'y aller si on ne connaît pas.
C'est aussi un petit paradis, comme il y en a beaucoup
oui.
en Italie.
Oui. Et puis après, donc, ils arrivent à Venise. Et là aussi, il y a des belles descriptions avec le Grand Canal. Voilà. Et là, ça donne envie aussi, sûrement, à ceux qui ne sont pas encore allés à Venise, eh bien, d'aller y faire un tour.
Ah, il faut y aller, oui. Il faut voir Venise. Il faut voir Venise, de toute façon. Mais il faut la voir avec des yeux... à la fois indulgent, des yeux avertis aussi, parce qu'on va pas à Venise sans avoir un peu réfléchi à ce que c'était, à ce qu'était cette ville, à son passé, à son présent aussi, parce que Venise est comme beaucoup de villes, comme Barcelone, comme Berlin, peut-être un jour comme Paris, noyée par des touristes, ses habitants sont obligés pour des raisons matérielles de la déserter parce qu'ils ne trouvent plus à se loger, si ce n'est à des prix prohibitifs, voilà. Donc aujourd'hui, Venise est en risque du fait de ses touristes, elle est en risque un peu de ce qu'il a fait vivre aussi, mais il est nécessaire aujourd'hui et urgent de trouver un équilibre, ce qui ne paraît pas être d'ailleurs la tendance de la mairie actuelle, qui effectivement a plus pour habitude, a pris pour habitude de faciliter l'avenue des touristes et surtout de ce que les Vénitiens appellent i grandi navi, c'est-à-dire ces monstres d'acier qui remontent le canal de la Giudecca et qui obscurcissent complètement le panorama. Vous êtes sur un petit pont au-dessus d'un canal et tout d'un coup il y a une masse que vous voyez se profiler, qui domine les immeubles de Venise, enfin les immeubles, les palazzos et les autres, d'ailleurs, parce qu'il y a des immeubles aussi à Venise, et vous voyez ça qui passe, et quand on sait, d'abord c'est une pollution visuelle importante, et ensuite c'est une pollution au niveau physique, puisque ces bateaux provoquent des ondes qui vont au fond des canaux, il y a un peu de vase, et cette vase vient frapper régulièrement, vient saper les fondations des immeubles. Donc c'est un vrai problème, et donc il va falloir que des décisions soient prises, il y a des manifestations des Vénitiens, et pas que des Vénitiens, il y a des protestations diverses et variées qui ne sont pas entendues, parce qu'on a plus tendance aujourd'hui à sacrifier au dieu argent qu'à l'histoire, et bien sûr à l'histoire de l'art. Mais il va falloir trouver des solutions. Et là, il semblerait que l'on va les amarrer un peu plus loin et qu'ils ne passeront plus par le canal de la Giudecca, ce qui pose d'énormes problèmes.
Eh bien, oui, d'ailleurs, dans ce livre, tu en parles, de ces gros monstres.
Ah oui, c'est choquant, parce qu'on est dans cette ville où on pourrait se croire revenu au Moyen-Âge, et d'un coup, on voit une espèce d'immeuble énorme, blanc, qui domine tout et qui avance et qui passe. Et alors, on dit, il va peut-être traverser d'ailleurs l'îlot sur lequel on est, il va tout bousculer. Voilà. C'est assez dramatique, et tout ça pour des touristes qui vont venir passer un jour à Venise. Il faut savoir que le soir à Venise, il y a quasiment plus de touristes. C'est fini, ils sont repartis sur les bateaux, dans leurs hôtels, et ça reste relativement tranquille. Et dans la journée, c'est noir de touristes, beaucoup de touristes asiatiques. Alors, j'ai rien contre les asiatiques, mais
avec les appareils photo.
Voilà, avec les appareils photo. Aujourd'hui, c'est le selfie avec l'espèce de bras là qui permet de faire les selfies. Alors, les gens ne voient plus du tout ce qu'ils sont censés être venus regarder, admirer. Ils le voient à travers le selfie aujourd'hui. C'est totalement dramatique. Mais il n'y a pas qu'à Venise, c'est partout pareil.
Oui, j'imagine. Mais enfin, bon, la Venise, lui, elle est menacée par la pollution et par le.
Absolument.
Alors, ils sont accueillis donc à Venise donc par Giorgio et sa femme Laura, et puis par un spritz, c'est le fameux apéritif local qui est très bon. Et puis Pierre examine le fameux tableau qui a failli être dérobé. Alors, il s'agit d'un nu, celui d'une femme aux yeux lumineux, une femme sensuelle et mystérieuse. Et puis au dos du tableau, il va découvrir une phrase écrite en latin. Et puis alors, pendant que Pierre va chercher son neveu avec Giorgio, eh bien le tableau est vraiment dérobé cette fois-ci, puisque Laura se retrouve ligotée, et puis il y a une fusillade entre les voleurs et puis dans le hall du beau palazzo d'ailleurs, entre les voleurs et puis deux carabinieri, dont la belle capitaine Chiara. Et donc tous ces événements se passent lors de la première journée de Pierre et Mauricio à Venise. Donc on imagine les jours suivants. Déjà le premier jour, chargé.
Il démarre très très fort.
Le premier jour, c'est très...
La suite ne démentira pas le début.
Ah, pas du tout. Il va y avoir de l'action, des rebondissements, du suspense, du mystère aussi qu'on laissera planer pour les futurs lecteurs. Alors ce sont des vacances bien mouvementées pour Mauricio sociaux, l'ado cramponné à son portable et à Internet. D'ailleurs, je trouve que les descriptions que tu fais donc le concernant sont très exactes, je le confirme.
Oui, il faut dire que j'ai eu un modèle qui est proche de moi, qui n'est autre que Mauricio, mon neveu, donc je n'ai pas eu à aller chercher bien loin.
Bien loin, d'accord.
J'ai eu qu'à lever les yeux, à le regarder faire et vivre, et là, pratiquement, le livre s'est écrit tout seul.
Voilà, je crois que tous les adolescents passent par cette phase. Alors, toute cette agitation, eh bien, a le mérite au moins de faire oublier un peu à Pierre son chagrin d'amour, c'est-à-dire faire un peu oublier le souvenir de Vivica, tout du moins.
Il essaye, il s'y efforce.
Oui, voilà. Et puis Pierre va donc mener l'enquête afin de découvrir comment les voleurs ont eu vent de ce tableau et puis où le trouver. Et puis surtout, il veut découvrir comment remettre la main dessus parce que en effet, cette croûte d'apparence banale, on va dire, va s'avérer être un tableau d'un peintre italien qui a vécu à Venise au XVIe siècle.
Oui, alors on ne va pas tout dire, mais effectivement, c'est ça. Oui, on va découvrir qu'en réalité, la croûte tableau, était une pépite. Une fois qu'on a un peu débarrassé de certaines couches de pollution, pas de pollution, mais de tout ce qui recouvre les vieux tableaux, de cette espèce de crasse en réalité qui les obscurcissent et qui permettent plus de distinguer, sauf un œil averti.
Mais voilà, Pierre Pagès a un œil averti, il a même tout matériel pour
le faire. Voilà, c'est son professionnel,
faire.
C'est un historien de l'art et en tant que conservateur de musée, il sait faire, il sait voir.
Voilà. Et donc, de l'action, comme on en parlait tout à l'heure, il y en a aussi comme quand Pierre et Mauricio vont se retrouver donc en pleine fusillade sur le Grand Canal sur un Vaporetto avec justement la belle Chiara, la carabiniera. Et puis, on fait connaissance avec les Vaporetto aussi.
C'est le bus de Venise. Après, ce sont des bateaux classiques ou des bateaux taxis, mais c'est l'autobus. Très pratique pour se déplacer dans
Venise. On prend un quai et on prend le Vaporetto.
Il y a des arrêts de Vaporetto, Nathan.
Des arrêts de bus. C'est amusant.
Alors, c'est aussi polluant que les autobus parce que c'est avec des moteurs quand même qui fonctionnent et qui polluent énormément. Ce ne sont pas des Vaporetto électriques.
Oui. Bien dommage, peut-être.
Si vous êtes un peu près de la cheminée, d'ailleurs, on ramasse quelques escarbilles en fonction du vent, mais il faut être prudent.
Oui, il faut faire attention. Alors, on suit également, on les suit également au marché, un joli marché avec Lucia, la gouvernante du Palazzo.
Oui.
On fait le marché avec eux, c'est sympa, je trouve, de faire ce marché avec. Avec Lucia.
On vit la vie des vrais Vénitiens, puisque les Vénitiens.
Dans des quartiers calmes, qui sont plus calmes que la place Saint-Marc,
À Venise, si on accepte la place Saint-Marc et le Rialto, et éventuellement la Punta della Dogana, c'est-à-dire au bout de Venise, si on accepte ces trois endroits et les rues qui y mènent, parce que ce sont toujours les mêmes, le reste de Venise est relativement calme et certains quartiers franchement déserts. Donc il faut savoir sortir des sentiers battus et éviter les Japonais avec la dame japonaise devant qui agite son petit drapeau et la troupe de Japonais qui photographie partout et qui se précipite dans les gondoles aussi.
Le
métier de gondolier fait des gondoliers les gens les plus riches de Venise et c'est une fabuleuse arnaque, mais bon, c'est l'image d'Épinal.
Oui, tout à fait. On ne peut pas aller à Venise sans avoir fait un tour de gondole.
Il faut être monté, mais ça coûte très cher quand même.
En plus, il y a en plus des abus, j'imagine, au niveau des attrapes touristes.
Ça fonctionne très bien. Alors, il y a même il y en a qui chantent, ils amènent des musiciens, on se groupe sur le Grand Canal et voilà, c'est très propice aux selfies.
Il me semble, c'est pas Georges Clooney qui s'est marié
à Venise, oui.
C'est bien ce qui me semble.
C'est pas le souvenir de Venise qui restera le plus.
Certainement. On espère d'ailleurs. Alors, on les accompagne aussi. Il y en a d'autres qui sont certainement beaucoup mieux que celui-ci. Alors, on les accompagne aussi au cimetière San Michele, sur une petite île.
Elle n'est pas si petite que ça. C'est quand même une très grande île. Il y avait deux îles qui étaient séparées par un canal qui a été comblé par Napoléon. Et c'est Napoléon qui a fait le grand cimetière de Venise.
D'accord.
Pour des raisons d'hygiène aussi, parce qu'avant il y en avait dans la ville principale, terrible. C'est un cimetière qui a deux caractéristiques, c'est immense, c'est assez désert, même quasiment désert, sauf, enfin, il y a ce qu'on appelle là-bas les zanzare, c'est-à-dire les moustiques.
Ah,
ils sont
oui,
par contre
oui,
très
oui,
présents oui. Et de taille au soir en Camargue. C'est affolant. C'est un endroit qu'il faut visiter, parce que, alors, visiter un cimetière, va-t-on me dire, quoi qu'à Paris, hein, on visite bien le Père Lachaise,
bah,
mais
oui,
c'est un cimetière qu'il faut voir, et d'ailleurs, quand on est dans le cimetière, on ne voit rien d'autre, parce qu'il y a des murs qui séparent les différents quartiers, voire les différentes religions, et donc on est complètement perdu, et on peut s'y perdre d'ailleurs, hein, très franchement.
Heureusement, là, dans ce livre, dans ce roman, le cimetière est gardé par un couple de gardiens bien sympathiques, deux anciens légionnaires, qui vont d'ailleurs devenir les amis de Pierre.
Voilà,
amis
un couple de
Pierre
légionnaires homosexuels, hein,
oui,
disons-le.
Oui, tout à fait.
Mais bon, pourquoi pas?
Ah ben oui, c'est... Alors, suite à un épisode musclé, d'ailleurs, là, là aussi, hein, au milieu des tombes, hein, ils vont... Donc voilà, ils vont devenir amis avec Pierre et Mauricio. Et puis donc, on va rencontrer aussi des moines, silencieux mais accueillants. Dans un monastère dont le nom m'échappe, mais je
oui,
sais que
moi,
tu
il
es
ne me revient
pour...
pas non plus
ah, bon,
sur
ah,
le coup, mais effectivement,
au monastère,
c'est...
voilà.
Je ne... Ça y est, le nom m'échappe complètement, c'est un début d'Alzheimer. Mais effectivement, il y a un monastère qui est d'un accès assez compliqué, on peut y accéder une fois par jour à partir d'une seule ligne Vaporetto. Et c'est un monastère, c'est les moines arméniens, c'est la communauté arménienne qui en a fait son centre monastique et artistique aussi. Il y a de véritables trésors en tableaux, en sculptures, mais beaucoup de tableaux.
Donc tous les lieux qui sont cités, je précise, dans ce roman policier, sont réels, ils existent bien,
oui,
hein, on les trouve à Venise.
Voilà, ils existent tous et on essaye surtout de ne pas aller dans les endroits que tout le monde connaît et qui...
Voilà.
Pour autant tout l'intérêt historique qu'ils peuvent avoir, mais il y a autre chose à voir à Venise.
Tout à fait. Et alors, en même temps que cette enquête au cœur de Venise et de l'art, eh bien, le frigo du Palazzo se vide mystérieusement. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et là, se dessine... Non, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est tout à fait vrai, vous le lirez. Et là, se dessine alors une autre histoire, bien actuelle malheureusement, si je puis dire, celle de familles persécutées qui essayent de trouver refuge dans des terres qui peut les accueillir. Et l'Italie, d'ailleurs, est un des pays les plus concernés par l'arrivée par mer de ces familles démunies et traumatisées, mais pleines d'espoir.
Oui, et puis c'est aussi l'occasion d'avoir pour Mauricio ses premières prises de conscience politique aussi.
Mmh. Ouais, oui,
mais nous n'en dirons pas plus.
Non,
voilà.
Non. Alors, on découvre aussi l'île de Murano, j'ai bien aimé, l'île des feux, appelée ainsi à cause des hauts fourneaux qui servent à la fabrication du verre.
Et oui, parce que le verre, c'est le feu. Et le feu dans une ville qui était essentiellement bâtie en bois, c'est quand même très dangereux de mettre des fours au milieu de l'île.
Donc
ils ont été exilés sur l'île de Murano, qui est devenue, qui est spécialisée aujourd'hui en verre. Et d'ailleurs, au passage, acheter le verre de Murano, mais pas le verre qui
made
in China, puisque les Chinois copient tout aujourd'hui, dont le verre de Murano, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc Murano est spécialisé. Et comme son île qui est un peu plus loin, l'île de Burano est l'île des pêcheurs.
D'accord.
Donc c'est tout ça dans la lagune de Venise. Il y a beaucoup d'îles dans la lagune.
Et puis on va aussi à l'Arsenal, cet ancien chantier naval qui était très important dans le passé et puis qui abrite là dans ce roman la Biennale. C'est une exposition.
Voilà, c'est une exposition d'art.
D'art international.
Oui, tout à fait international et qui est en partie. Mais en partie seulement dans cet ancien arsenal, puisque Venise, c'est la mer, c'était des marins,
et donc c'était
des gens qui stratégiquement ont effectivement tenu la Méditerranée, et souvent en s'opposant violemment aux Turcs pendant des années, voire des siècles, et ils fabriquaient des bateaux, c'était la force de Venise. Et l'arsenal, qui était une ville dans la ville,
c'est absolument
un endroit absolument gigantesque, et aujourd'hui qui a été reconverti et qui abrite, alors la Biennale, c'est derrière l'arsenal, hein, il y a tout un espace dédié avec des pavillons par pays, mais dans Venise, pendant l'exposition de la Biennale, tous les espaces, tout est ouvert, les palazzo abritent des expositions, enfin il y a de l'art partout, et ce qui fait de cette balade artistique dans la ville, il y en a même dehors, dans des cours, pour un amateur d'art, c'est absolument
régal,
extraordinaire.
Ouais. Les palazzos aussi, je veux dire, quand ils sont décrits là, enfin comme tu les décris là dans ce livre, ça donne envie. C'est vrai que c'est des belles demeures.
C'est des demeures fabuleuses. Et puis
décorées,
c'était des demeures qui servaient de devanture à l'époque, comme on l'a fait ailleurs, hein, mais à Venise tout particulièrement, les grandes familles qui s'étaient enrichies se devaient d'avoir leur palazzo sur la plus belle avenue du monde, qui n'est autre que le Grand Canal,
qui coupe
Venise en deux et qui s'étend sur plusieurs.
C'est un peu les Champs-Élysées de Paris.
Ah, tout à fait, c'est les Champs-Élysées de Paris. Avec des palazzos superbes, avec une circulation extraordinaire. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est de voir ces bateaux, des grands, des petits, qui vont dans tous les sens. Il paraît qu'il y a
une
code.
Hein.
Oui,
il
y a une circulation.
C'est pensé.
On n'a pas son permis comme ça, heureusement, parce que c'est assez saisissant de voir le trafic qu'il peut y avoir sur ce type de canal.
Et puis, bien sûr, citons aussi l'histoire de Marco Polo, hein, on y fait allusion dans ce roman aussi, hein, Marco Polo, forcément aussi, hein, qui est indissociable de Venise, de l'Italie. Alors, ce quatrième roman policier, donc, réunit plusieurs choses, comme on vient de le dire, le suspense, bien sûr, de l'intrigue, et puis les nombreux rebondissements présents jusqu'aux dernières pages, hein, vraiment, de l'humour, on sourit beaucoup à la lecture, et puis aussi des thèmes forts, comme les migrants, le trafic d'œuvres d'art, l'avenir de Venise, hein, on en parlait tout à l'heure, la pollution, le consumérisme, les pigeons, les touristes, et tout ce côté qui abîme en quelque sorte la ville. Et puis on trouve aussi bien sûr donc de l'art et puis la ville de Venise, mais aussi de l'amitié et puis même de l'amour. Et puis on voit aussi que Mauricio, le neveu de Pierre, va grandir durant ses vacances vénitiennes très mouvementées. Il va y découvrir l'art, bien sûr, auquel son oncle va un peu l'initier, mais il va aussi découvrir l'engagement de ses idées. Et je trouve qu'on le retrouve, il y a un avant et un après. Il est arrivé à Venise d'une certaine manière et il va en repartir
enrichi, augmenté, grandi.
Tout à fait.
C'est son âge, son oncle se comporte un peu comme un passeur avec lui.
Oui. Hein. Transmettre ce qu'il sait, lui faire découvrir. Alors, merci Jacques pour cette quatrième enquête de Pierre Pagès, Mort à Venise, aux éditions Mare Nostrum. Et on espère d'ailleurs qu'il y en aura une autre d'enquête.
Ah, mais il y en aura une autre. Alors,
En préparation
Oui, il y a des idées qui courent, mais surtout, Mort à Venise est en train de vivre une autre vie entre des mains qui ne sont pas les miennes, qui sont celles d'un dessinateur de bande dessinée qui a souhaité la dessiner. Donc, dans quelques mois, peut-être, on aura Mort à Venise en BD. Alors, on a déjà travaillé sur les premières planches, mais. Nous en sommes au début de cette aventure et puis peut-être qu'il y en aura derrière une autre, puisque il est possible qu'un jour ça fasse l'objet, ce livre-là, mais les autres aussi, d'un film, puisque j'ai été sollicité et qu'un réalisateur travaille sur un dossier un peu complexe à monter, mais bon, on a déjà une idée d'acteur.
Tu nous en diras plus.
C'est des aventures longues et aléatoires quant au résultat final, mais enfin, celle-là est lancée, BD sortira, le film, les films, peut-être un jour.
Bon, mais à la BD, tu pourras revenir nous en parler avec le dessinateur,
Avec le dessinateur,
ça serait intéressant,
qui est un garçon talentueux. Et quand j'ai vu les premières épreuves, les premières esquisses, je lui ai dit, c'est parfait, parce que c'est comme ça que dans ma tête, je le voyais. Donc, on s'est trouvé immédiatement en phase, ce qui devrait bien augurer de la suite.
C'est sûr que c'est mieux. Et ce sont des thèmes qui te tenaient à cœur et qu'il était nécessaire d'évoquer dans ce roman, les thèmes qui sont
on y met toujours un morceau de soi-même, monsieur. C'est du roman, et donc c'est l'imagination qui est aux commandes.
Il y a quand même des choses, des petites notes, des petites remarques, des petits, quand même, le thème toujours de voir la vie
de l'auteur derrière ce qu'il écrit. C'est rarement le cas, parce que c'est toujours une œuvre d'imagination.
Tout à fait. Mais merci Jacques. Rediffusion ce soir à 23h30 de cette émission. Et puis on se quitte avec une musique que tu as choisie.
D'abord c'est une musique italienne. Et puis c'est tout simplement l'indicatif de l'émission Ça va mieux. Mais c'est surtout
le côté italien,
musique écrite par Fellini, Rota surtout, et Fellini dans un de ses films. Et merci de cette invitation, Claire.
Merci Jacques. Adicias.